bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bande originale. Bravo. Avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour.
Avec Daniel Morat.
Bonjour.
Albert Algou.
Bonjour.
Tanguy Bassureau.
Bonjour.
Monsieur Alexis Le Rossignol. Et notre invité.
Qui?
Bruno Solo.
Bravo. Bravo Bruno.
Bonjour Bruno. Merci, merci malgré le défilé du 8 mai et la pluie incessante, merci de venir nous parler de ce très beau film qui passera ce soir sur France 2 à 21h. Film qui commence par un énorme sourire et qui, on ne dit pas comment il se conclut, mais en tout cas se poursuit avec une véritable tension. Ça s'appelle L'enfant que je n'attendais pas, réalisé par Bruno Garcia. Vous êtes aux côtés de Alix Poisson et Macha Merrill, entre autres. Vous êtes un papa gâteau, un papa magique, un papa... clown qui démarre par l'anniversaire de sa fille et on voit bien qu'Alix Poisson, elle, est une espèce de working girl, un peu comme toi, Leïla.
Bonjour.
N'arrête pas de travailler et de courir. Et elle arrive et elle est en train de résoudre des problèmes de bureau et elle a à peine le temps d'allumer les bougies de son gâteau d'anniversaire. Je n'ai parlé que de la première minute parce que tout bascule à partir de la nuit suivante.
Oui, après ce portrait idyllique, cette famille idéale, comme on
heureuse,
presque une image d'Épinal, d'une famille accomplie, heureuse, complice, etc., avec une petite fille adorable. Et puis tout d'un coup, dans la nuit, mon épouse Johanna, jouée par Alix Poisson, a des contractions très violentes. Elle ne me réveille pas. Elle pense que c'est peut-être des maux de ventre. Elle va dans la salle de bain et elle accouche. Voilà, le film vient de commencer depuis 3 minutes.
Alors qu'on l'a vu, avant.
Elle était absolument enceinte. Oui, voilà, c'est les frêles, graciles. On peut pas soupçonner que cette femme puisse être enceinte. Et elle accouche d'un enfant et dans un état de sidération et d'hébétude absolue, elle sort presque de son corps. Elle considère qu'elle n'est pas elle-même, que cet enfant qui sort d'elle n'est pas non plus son enfant. Et elle a un geste fatal qui va lui coûter très cher. Et c'est tout le film est basé après là-dessus. C'est qu'elle va prendre cet enfant, l'amener dehors, devant leur maison.
Près des poubelles, oui.
Près des poubelles. Et le poser comme si c'était autre chose, comme si c'était un fardeau qui ne la concernait pas. Et évidemment, elle revient à la maison, je la vois évanouie, je lui demande ce qui se passe, je la vois en sang, je me pose des questions, j'appelle les pompiers me disent « cette femme est enceinte », je lui dis « comment ça, ma femme n'est pas enceinte ouais. ?» Et là-dessus, le voisin arrive, dit « regardez ce que j'ai trouvé devant chez eux », donc la police, et là, elle est enfermée, et là commence la reconstruction de ce couple à travers ce drame qui va apprendre à s'aimer et à comprendre ce phénomène absolument spectaculaire, mais profondément bouleversant, qui est le déni de grossesse et qui est encore aujourd'hui, au-delà du fait qu'il puisse être un peu tabou, qui est un sujet qui, malgré toutes les explications physiologiques, pathologiques, intellectuelles, cérébrales, cellulaires qu'on peut avoir autour de ça, c'est tellement dingue d'imaginer qu'un cerveau puisse commander au corps d'une femme, à un enfant, d'être comme un passager clandestin. Ouais. Cache-toi parce qu'elle n'est pas prête à te recevoir.
C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec psychanalyste, Sophie Marinopoulos, qui fait partie du service de prévention de la promotion de la santé psychique, qui va venir nous parler donc de ce déni de grossesse.
Les femmes sont victimes. Il faut quand même dire que ce sont les femmes qui sont victimes de ça.
Voilà.
C'est pas volontaire.
Absolument
c'est
pas.
Donc les femmes sont victimes, les bébés aussi.
Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire
se terminent pas de manière aussi tragique que l'exemple que nous avons mis en dans
juste
notre
une question.
L'enfant reste vivant, je tiens à le dire quand même. Ouais. L'enfant est vivant.
Aucun enfant n'a été blessé lors du tournage de ce film.
Voilà.
C'est très important de le préciser. C'est à partir d'une histoire vraie?
C'est une histoire universelle, c'est une histoire qui pourrait être vraie. Elle concerne sans aucun doute beaucoup de femmes qui vont se reconnaître, et d'hommes et de femmes qui vont se reconnaître dans ce portrait tragique.
Ce soir sur France 2, L'enfant que je n'attendais pas, avec Alix Poisson et Bruno Solo, Macha Merrill jouant votre maman, puisqu'elle a un rôle aussi très important. C'est vrai que toute la famille va exploser et va devoir se reconstruire ou pas. C'est le sujet du film. Mais d'abord, question concernant Bruno Solo. Tout le monde croit bien connaître Bruno Solo,
mais en fait, on le connaît pas du tout.
Il cache tellement de choses. Quel métier aurait-il aimé faire dans une autre vie?
Footballeur?
Musicien?
Non. Prêtre? Ah, t'es pas loin.
Libraire? Auteur?
Producteur?
Non.
Comme son père?
Chanteur?
Plasteur ou un truc comme ça?
Staffer.
Pardon.
C'était plateur.
Décorateur?
C'est pas loin de musicien, t'as dit. Batteur.
Non.
Musicien.
Compositeur.
J'ai dit musicien, je pas dit batteur.
Chanteur. Compositeur.
Non.
Chef d'orchestre.
Oui, exactement.
Ah ouais.
Maestro, chef d'orchestre. Vous auriez adoré diriger un orchestre symphonique.
Ah oui, si tant est que je puisse croire une seconde vie, vous savez, les karmas, j'y crois pas, mais bon, c'est peut-être que ça me prendra sur le coin de la gueule.
Vous aimez les chats, donc.
Oui, voilà. Oui.
Sinon, Jacques Attali fait tout.
Voilà. Mais un chat chef d'orchestre, ça connaît. Pardon.
Jacques Attali fait tout en même temps.
Si je devais me réincarner, oui, j'adorerais être Carlos Kleiber, qui est pour moi le plus grand chef d'orchestre de tous les temps. Et j'ai une passion pour les chefs d'orchestre. Je lis beaucoup de choses sur eux. J'ai vu énormément de films sur les chefs d'orchestre.
Alors,
et je vais voir.
Je
suis déjà venu ici.
Est-ce qu'ils savent tout diriger? Est-ce qu'ils savent tout jouer, les chefs d'orchestre?
Oui, à la base, chaque chef d'orchestre est musicien. Ce sont tous quasiment des virtuoses.
Il sait jouer du violon, il sait jouer
du piano. En général, ils sont tous virtuoses du piano, du violon, du triangle à l'occasion. En tout cas, ils savent diriger un triangle et lui demander d'intervenir au bon moment. Après, c'est juste une histoire de sensibilité, d'interprétation d'une œuvre. Comme nous, chaque comédien ne joue pas de la même manière Tartuffe ou le Misanthrope. Il y a plusieurs interprétations et c'est pour ça qu'il y a plusieurs chefs d'orchestre et plusieurs manières d'aborder
la
musique.
Et en écoutant une œuvre, vous êtes suffisamment pointu, aguerri pour vous dire c'est tel chef ou tel chef.
Ça dépend. Il y a quelques chefs dont je reconnais effectivement la direction et puis après, c'est un peu plus compliqué. Après, ça devient très technique. Je n'ai pas, hélas, le don du solfège. Je ne savais pas diriger. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté, parce que j'étais pas doué en solfège et que très vite je me suis rendu compte que je suis devenu batteur, quoi.
C'est ça. Vous rêviez d'une baguette et finalement il y en a deux.
Ouais, j'en ai deux. Voilà. Mais j'ai dirigé des orchestres. Oui, titre. Ouais.
Quelle est la fonction principale de Bruno chez lui? Quel est son rôle à la maison?
Cuisinier. De foyer.
Non, de foyer.
Chef d'orchestre.
Non.
Descends la poubelle.
L'éducation des enfants.
C'est pas loin.
C'est les tâches ménagères.
Il fait le ménage.
C'est le repassage.
Oui, dans le cadre des tâches ménagères, il y en a une qui lui incombe. Non.
Le repassage.
Non. Il est même une espèce de
maniaque.
Oui. La cuisine.
Une espèce de maniaque. Non, c'est pas la
cuisine.
Il
range.
Épousseter les chaussures.
Chef d'orchestre, chef de cuisine. Tu as dit quoi, pardon?
Il range.
Exactement. Exactement.
Les rangistes.
Vous êtes.
Je suis rangeur.
Vous détestez l'espèce de désordre quotidien dans lequel on aime tous vivre.
Je le déteste. C'est presque une sorte de marotte. Je suis conditionné pour quand je vois un truc traîner, je range. Il m'est même arrivé de ranger des assiettes de gens qui étaient en train de manger à la maison et puis comme un réflexe de retirer l'assiette. Mais j'ai pas fini. Ah pardon, excuse-moi. C'est un réflexe. Il faut juste me remettre.
Mais est-ce que vous rangez les affaires de votre épouse ou de vos enfants?
Oui. Je passe dans la chambre de mes enfants et je rends mon fils qui a 20 ans, je lui range ses affaires, c'est ridicule. Ma fille aussi, je lui range, donc évidemment, ils en sont ravis. Et
Pas se plaindre.
Mais vous les engueulez avant?
Non, j'ai fini les engueuler. Tant en temps, je leur dis, vous pourriez ranger, et puis oui, je sais, et puis comme ils savent que je vais le faire.
Ça te fait tellement plaisir, papa.
Oui, c'est ça.
Bruno Solo n'a rien spécialement contre, c'est pas un militant contre ce dont. Ce que je vous demande de trouver, mais il n'a jamais voulu céder à cette mode. Il n'a rien contre
la drogue,
le véganisme.
Non,
le selfie.
L'onanisme, t'as dit?
Non, véganisme.
La bigamie.
Apparemment, ça rend sourd.
La bigamie.
Non. Le nudisme. Il y a un truc avec selfie, c'est ça, avec son image?
Il y a un truc, en tout cas, avec le numérique.
Ah, d'avoir des réseaux sociaux, des comptes.
Exactement. Exactement. Vous avez refusé céder à cette mode. Parce que c'en est une.
Si c'est une mode, en tout cas. Si. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. C'est pas que j'ai refusé. Je comprends. Ça existe. Je fais avec. Je sais que, ma femme, mes enfants et tout sont parfois actifs dessus. Et il m'arrive de me pencher au-dessus d'eux pour voir un peu comment ça marche. Mais jusqu'à présent, j'ai pu m'en passer. Et je vis en dehors, effectivement, d'Instagram, de Facebook, et l'autre, c'est Twitter. Voilà. Je vis en marge de cela, et jusqu'à présent ça m'a pas trop porté préjudice, jusqu'au jour où j'aurais pu le choix, on me dira, mais Bruno, si tu veux continuer à faire ton métier, t'as intérêt à être sur Instagram.
Alors, je
le ferai, mais pour l'instant,
je m'en
passe.
Mais c'est une manière de s'exprimer, une manière d'exprimer des positions et des opinions, et avec un danger.
J'ai un problème avec l'idée des punchlines, des phrases toutes faites,
des
concis, des raccourcis, des lieux communs qui peuvent se véhiculer. Il n'y a pas que ça. Quand les gens s'utilisent bien les réseaux sociaux, je trouve ça même assez passionnant. Mais moi, j'ai un peu de mal avec ça, et je trouve ça très chronophage. œsophage. Moi, j'ai vu sur des plateaux des copains, des copines qui font le même métier que moi et qui passent leur temps, qui au maquillage, sur qui
Facebook,
entre deux séquences,
ouais, ils sont
de regarder, je suis pas sûr, et de regarder, me chauffe pas là-dessus. Et t'es sur les réseaux sociaux ?
Oui, d'ailleurs, je vous
alors,
suis.
Tu veux
et
savoir,
vous envoyez des photos de votre
sondage.
Sexe ? Je comprends pas, en fait, ça doit pas être vous.
C'est pour moi que j'ai enregistré, c'est ma femme, d'ailleurs, elle voudrait te parler, et parce qu'elle est sur les réseaux sociaux. Mais non, mais vraiment, je suis passé à côté de ça, et puis c'est, ça prend beaucoup de temps, et j'ai le sentiment, comme je suis
pas.
Un peu obsessionnel comme garçon, ouais. J'ai le sentiment que si jamais je me mettais sur les réseaux sociaux,
vous
moi
allez
aussi,
ranger.
Je passerais de temps.
Vous allez ranger Facebook,
oui,
vous allez ranger Twitter.
Et puis, non, donc voilà, je vis en marge de ça.
Et pour Instagram, essayer de donner quelque chose d'un peu positif aussi aux réseaux sociaux, il y a des comptes, en effet, qui sont assez inintéressants. Et là, récemment, je suis tombée sur un compte super qui relate en fait l'existence au jour le jour d'une petite fille juive pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est incroyable, je l'ai vu.
Voilà, voir comment Instagram peut être aussi un média qui raconte des histoires.
Et bien utilisé, je crois même que c'est un média indispensable à l'évolution
absolument.
De notre société.
Mais pardon,
il faut faire avec. Mais
c'est
moi,
c'est le principe d'un réseau, quel qu'il soit.
Avant
qu'il soit numérique, avant c'est des réseaux soit professionnels, les francs-maçons, d'autres lobbies, mais qui permettaient à certaines personnes de peut-être rapidement trouver du boulot, mais aussi qui étaient très caritatifs. Je pense aux Lyons ou aux Rotary et compagnie,
bien
c'est une
sûr,
sorte de
sûr,
réseau, mais qui se cotisaient pour payer des ambulances ou venir en aide. Et ce que fait aussi beaucoup les réseaux sociaux, des cagnottes comme ça qui sont lancées, des aides ou des appels.
Non, WhatsApp, à la limite, on peut créer des petits groupes ça, c'est un peu rigolo.
C'est un dérapage. Qu'aimerait avoir Bruno
Private
Solo.
Private joke, pardon. Ouais. Pour des auditeurs, c'est entre Nagui, Laïla et moi.
Ah, direct, tu balances.
Voilà, comme ça, on est.
Qu'aimerait faire Bruno Solo dans sa maison.
Des travaux.
Une véranda.
Alors, des travaux, mais pour
une
construire quoi. Alors,
un sauna, un hammam.
Un jacuzzi.
Non,
mais une salle de cinéma.
J'ai déjà, voyons.
Salle de cinéma.
Non, c'est un truc inimaginable.
Un pédiluve.
Inimaginable dans une maison.
Un parc d'attraction.
Non, mais un truc où tu te dis pas, ça existe dans une maison. Alors, pas loin.
Piste d'hélicoptère.
Alors, piste, mais
pétanque, pas pétanque.
Non, pas loin.
Piste d'atterrissage d'avion.
Piste de bowling.
Exactement.
Ah, bon.
Mais c'est un truc de dingue, ça. Ça existe
J'ai vu ça, vous savez, dans le film Let There Be Blood, là, le film avec Daniel Day-Lewis, à la fin, il a un bowling dans son... ça m'avait fasciné.
Alors, moi, bowling,
j'adore le bowling.
J'avais Big Lebowski, moi, comme ça.
Oui, Big Lebowski, mais c'est pas dans un appartement.
C'est pas privé,
c'est dans un vrai bowling.
Il y a des suites dans des hôtels à Vegas où il y a le
bowling. Il paraît. Mais alors, je m'étais renseigné pour le faire dans son casinos. Jardin parce que mon jardin était en longueur, mais c'est un enfer en fait, c'est un vrai merdier.
Vous étiez vraiment renseigné?
Oui, je m'étais renseigné pour savoir. Ça m'amusait d'imaginer que dans le temps faire venir des copines, des copains à la maison.
On fait un bowling à la maison.
Non, on fait un bowling, mais qu'une seule piste même, c'est pas grave. Si on est 5-6, on a une seule piste, mais bon, c'était l'enfer.
Et puis ça coûte un bras, non?
Et puis je crois que ça fait énormément de bruit quand vous avez juste des voisins à côté. T'imagines toute la nuit. Je le fais très mal, le bruit des
kikis.
Je me demande quoi.
En aluminium.
Enfin, si ça coûte un bras en plus. Après, c'est moins pratique pour jouer au bowling.
Je me suis renseigné.
Quelle émission. Oh là. Pardon. Quelle émission. Oui, c'est un dérapage. Quelle émission de télé Bruno Solo ne ratait jamais dans sa jeunesse?
La séquence du spectateur.
Une émission qui n'existe plus.
Apostrophe.
Non. Un truc
bouillon de culture.
Politique.
Non.
La piste aux
Chancel.
Étoiles.
La piste.
Encore Chancel.
Jacques Martin.
Non, mais c'était un grand nom en tout cas.
Le journal du Hard.
Non.
Fort Boyard.
Avant.
Journal du Soft.
Avant.
Quelle époque?
Avant.
On est dans les années 70.
Le Grand Échiquier.
Les années 70, 80.
Ah ouais, Jacques.
Non, Chancel, non, j'ai dit non.
Non. C'était même le titre de l'émission était le nom de ce monsieur.
Jacques Martin.
Averti.
Dimanche Martin.
Jean-Christophe Averti.
Non.
Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque?
Voilà, faut pas trop me regarder parce que.
C'est de la musique en plus, c'est ça?
Quelqu'un a une idée ou pas dans le public?
C'est votre génération, hein?
Non. Donc la nôtre, hein?
Non, c'est la mienne.
Messieurs, dames,
c'est la
mienne.
Robert Reisner.
Non, mais.
Pas loin.
Les.
Garcimore.
Non. Non, c'est une émission.
Ouais, je sais pas.
C'est une émission. Prénom Alain. Allez, je vous aide pas plus.
Ah, c'est quoi le
Decaux?
Trop tard.
Bravo. Ouais, l'historien.
Alain Decaux raconte.
Trop tard, j'avais fait. C'est tout.
Pourquoi ça porte son nom? C'est les Decaux de l'histoire?
Alain Decaux raconte, ça s'appelait. Mais il racontait, alors c'était quand même d'une austérité. Le mec était face caméra avec une carafe d'eau comme moi, là, en ce moment, là, je le dis pour les auditeurs, mais c'est vrai que c'est filmé la radio maintenant. Un petit verre d'eau et des diapositives qui passaient derrière et il racontait, je sais pas, par exemple, j'ai souvenir de l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac. Et c'était passionnant parce qu'il avait quelque chose un peu convulsif dans sa manière de raconter. Il faisait vivre, c'était un conteur magnifique.
Ouais.
Et c'était c'était pourtant ça durait une heure face caméra, il y avait pas d'effets, il y avait rien et juste des diapos qui passaient derrière, même pas des reconstitutions, même pas animées, des dessins pourris dans les quatre. Et moi ça me passionnait parce que j'étais déjà dingue d'histoire quand j'étais petit et que j'aimais, et j'avais l'impression de voir le prof que j'aurais rêvé d'avoir. Et Dieu merci, je l'ai eu ce prof. J'ai eu un prof qui s'appelle Monsieur Aidan, qui était absolument passionnant, que j'ai eu pendant 2 années au collège et pour qui j'ai gardé une tendresse gigantesque.
Énorme point commun avec le métier que vous faites, raconter des histoires.
Ouais,
qu'elles soient réelles ou fictives, il y a ce plaisir chez vous.
Je crois que c'est la première, ma première motivation, c'était de raconter des histoires. Le premier truc qui m'a animé, effectivement, c'était de voir des professeurs passionnants. Dans quelques matières que ce soit, d'ailleurs, même en maths où j'étais nul, j'aimais quand un professeur me happait comme ça et avait cette capacité à nous emporter, cette capacité à s'enthousiasmer en apprenant, en transmettant. Moi, j'aime bien quand on transmet avec enthousiasme. Que ça soit de la boulange, que ça soit un garagiste, que ça soit un comédien, j'aime l'enthousiasme dans la transmission.
On le sent dans la passion avec laquelle vous le dites. L'enfant que je n'attendais pas, c'est donc ce soir sur France 2 à 21h. C'est l'histoire d'une reconstruction, c'est-à-dire comment va-t-elle devoir répondre devant la justice de l'acte c'est-à-dire ce déni de grossesse qu'elle a eu, cet abandon d'enfant, cet homicide involontaire.
Et
toute la question est là, est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Était-elle consciente ou pas? Êtes-vous complice ou non? Comment le couple va tenir, comment la famille va tenir, c'est pour ça que je parlais aussi du rôle important de la maman qui est là, est-elle bonne conseillère ou pas?
C'est-à-dire qu'elle elle pense qu'une femme obligatoirement sait qu'elle est enceinte, elle ne peut pas envisager ça, et puis évidemment les consciences vont évoluer. En tout cas ce film j'espère qu'il sera vu par le plus grand nombre, mais peu importe, en tout cas ceux qui le verront ne pourront plus dire qu'une femme est coupable de déni de grossesse, mais victime systématiquement d'un déni de grossesse, quelles que soient les conséquences de ce déni de grossesse, parce qu'il y a des conséquences effectivement tragique, et d'ailleurs c'est évoqué dans le film aussi, de femmes qui ont tué les enfants qui sortaient.
C'était l'affaire Courgeot.
C'était encore un autre. Que la psychologue.
On dira ça tout à l'heure.
Mais longtemps, effectivement, ça a été l'image emblématique de déni de grossesse, ça a été l'affaire Courgeot. Et en fait, c'est plus complexe, c'est plus. L'arborescence des déni de grossesse est beaucoup plus large que l'affaire Courgeot, qui est une affaire tragique, qui existe aussi, mais qui n'est pas le seul aspect des déni de grossesse. Il y a des aspects des déni de grossesse qui sont même parfois moins tragique, qui se passe très très bien. Là, nous avons choisi un truc médian.
Quand vous dites qu'il se passe très bien, c'est-à-dire qu'il y a le déni pendant toute la grossesse, et lorsque l'enfant arrive, la prise de conscience de son existence fait que...
Des fois, c'est des déni de grossesse partielle, c'est-à-dire au bout de 4-5 mois, la femme s'en aperçoit parce que suite à, par exemple, un maux de ventre, elle va voir le médecin, il dit vous êtes enceinte, et là, le ventre apparaît soudainement. Soudainement, dans l'heure, quoi.
Mais l'enfant n'est pas forcément ni prématuré, ni...
Après l'enfant va aller à son terme, mais après il y a des délits de grossesse qui sont plus tragiques, comme ceux évoqués dans le film où la femme accouche comme ça au bout de 9 mois à terme.
Ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est de voir comment la justice aussi découvre un peu le phénomène, ou en tout cas n'a pas les outils. Et d'ailleurs la juge est une femme, donc on pourrait s'attendre à une forme de tentative de compréhension ou de compassion, et en fait elle considère que c'est impossible, ça ne peut pas arriver.
D'autant que cette femme est dans un milieu aisé, qu'elle est elle-même accomplie, qu'elle a un métier, qu'elle a déjà un enfant, donc ils pensent que c'est un acte de malveillance de sa part.
Et qu'on peut la soupçonner d'être carriériste. Est-ce qu'on soupçonne, généralement on soupçonne plus les filles que les garçons de ça, les femmes en tout cas.
D'être enceinte ?
Non, c'est de se dire que parce qu'elle continue, elle est en train d'exercer un métier prenant et qu'elle avance dans les échelons, qu'elle aurait pu volontairement vouloir tuer cet enfant.
Mais dans le film justement, vous avez raison de le souligner, on indique les raisons qui auraient pu causer ce déni seulement à la fin, et en plus il y en a plusieurs des explications. Ce serait trop simple de ramener ça ou à un traumatisme ou à un caprice ou à une malveillance. C'est des raisons qui, pour l'instant, on est aux prémices de cette découverte du déni de grossesse.
Ce qui est incroyable, et ce qui est dit dès le début. moi, je pensais m'arrêter, honnêtement, dans les 5-10 premières minutes et laisser la part de suspense, parce qu'il y a un véritable suspense. Au-delà du sujet.
Sur la reconquête du couple, il y a un suspense. Sur la manière dont ils vont pouvoir se reconstruire.
Sur le jugement aussi. Même le rapport avec sa copine avocate, le rôle de la maman aussi, la reconstruction du couple, le changement, l'amour, la la force de l'amour entre le mari et la femme. Il y a vraiment, il y a une trame qui est.
Je crois que pour ce film, c'est pas si grave, Nagui, de raconter, Non, non, mais vous avez raison de le dire. Mais je pense que justement, il faut pas rendre le film le rendre spectaculaire par ce qu'il démontre. Mais je pense que dans la globalité, c'est pas grave de dire qu'effectivement, c'est une démonstration assez globale de ce par quoi peuvent passer une femme et évidemment et si elle est concernée par une famille,
la résilience, c'est tout ce qui se passe après cet acte-là. Vous avez abordé le sujet quand vous avez découvert ce sujet d'abord. Vous en saviez rien du tout.
C'est un petit peu. Un petit peu. C'est une histoire que c'est des histoires qui m'avaient fasciné il y a quelques années, notamment avec l'affaire Courgeot, parce que je me souviens d'un titre scandaleux dans la presse pour un journal qui, Dieu merci, n'existe plus aujourd'hui. Enfin, pas Dieu merci. Pardon, c'est pas bien ce que je dis. Qui n'existe plus aujourd'hui, donc je peux me permettre de le citer. C'était François qui avait mis en couverture le visage de Véronique Courgeot avec au-dessus de son visage le monstre. Et que réduire ce déni de grossesse dont on savait peu de choses avant, même si la psychologue qui va venir va nous en dire un peu plus, parce que j'ai un peu discuté avec elle en coulisses tout à l'heure, si on savait peu de choses, en tout cas les médias en savaient peu, réduire ça à le monstre, c'était une réduction criminelle de la part des médias.
Oui, mais à l'époque, pardon,
mais même dans l'état actuel des recherches, on ne peut pas considérer, c'était pas possible dans l'état actuel des recherches à ce moment-là, et même de l'enquête. Très vite, on s'est aperçu que cette femme était victime d'une névrose, qu'elle avait un problème psychanalytique, etc. Enfin, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais mettre juste le monstre.
Mais on parlait de raccourci tout à l'heure, là.
Là, c'était un raccourci.
Et vous l'avez dit, c'était Philippe Bouvard, non, le rédacteur en chef de François?
C'était possible. Peut-être si
vous l'avez dit?
j'étais à cette époque-là, c'était dans les années 90. J'avais juste été un lecteur qui avait été outré par ce titre. Et ce phénomène m'avait fasciné, donc j'avais été voir quelques petites choses. C'est pour ça que quand le scénario m'a été proposé, j'ai dit oui tout de suite, parce que ça m'intéressait vraiment de me mettre dans la position en plus de l'homme. De cet homme qui est kinésithérapeute, qui connaît l'anatomie, qui connaît sa femme, qui l'aime, qui la touche régulièrement, à qui il fait l'amour, et qui s'en veut lui aussi de
vous
ne pas avoir
décelé. Vous parlez d'anatomie, il faut préciser que dès le début du film aussi, on voit qu'elle est extrêmement mince, qu'elle n'est absolument pas enceinte. Presque. Elle dit, lorsque on lui annonce qu'elle vient d'accoucher, elle dit c'est pas possible, j'ai mes règles, j'avais mes règles régulièrement tous les mois, je ne suis pas enceinte, je sais que je ne suis pas enceinte, je sais ce que c'est puisque j'ai eu déjà un enfant. Donc c'est important de rappeler que ce déni-là va bien plus loin que psychologiquement.
Bien sûr,
corps lui-même.
Oui, le corps lui-même cache. C'est vraiment le passager clandestin. Vous découvrez tout d'un coup que vous avez.
Ça s'appelle L'enfant que je n'attendais pas. C'est ce soir 21h sur France 2 avec Alix Poisson, Macha Meryl et Bruno Solo qui est notre invité. Et ça va être un succès, Père Albert.
Ah, cher Nangui, s'il y a une chose à laquelle on peut s'atteindre, c'est au succès de ce film. Succès dû, bien sûr, à l'interprétation aussi sensible qu'impliquée de Bruno Solo. Coucou, Bruno.
Bonjour.
Dans une histoire... J'ai deux oreilles. Une histoire qui est tant d'un point de vue sociétal, comme dirait Leïla Kadour, que marital et que médical... Et psychologique, là, j'ai pas trouvé de rime en hall, ne manquera pas de captiver un vaste public. Certes, eu égard à ma fonction sacerdotale qui exige le célibat et qui m'interdit tout contact charnel avec une... et qui exclut toute procréation, je ne prétends point être un expert pour tout ce qui touche à la maternité. Même s'il est vrai que mes fidèles m'appellent mon père ou mon gros pépère lors de certaines soirées que j'organise dans ma camionnette au Monderie Multifonction, fabrique de tacos, chenille... Urinoir public, bureau de vote pour les européennes, déchetterie mobile et maternité. Je disais donc, le déni de grossesse est un sujet qui m'interpelle, d'autant plus qu'à l'origine, il y a 2019 années, le fondateur de ma boîte fut en quelque sorte le fruit d'un déni de grossesse. Mais oui, ce n'est point blasphémé que de se dire que l'Immaculée Conception, par intervention directe des Saint-Esprit et non des Saint-Joseph, ça n'est pas plus stupéfiant que Johanna qui affirme ne pas comprendre ce qui lui arrive, on vient d'en parler, et qui jure qu'elle ne se savait point enceinte. Par ailleurs, je dois reconnaître...
Johanna étant le nom du personnage joué par Alix Poisson.
Voilà, l'épouse du personnage joué par Bruno, par un kinésithérapeute. Par ailleurs, je dois reconnaître qu'il échoit parfois aux familles les plus pieuses. Bonsoir. D'être confronté au déni de grossesse. Souvenez-vous de Marie-Thérèse dans La vie est un long fleuve tranquille.
Mais enfin, Marie-Thérèse, comment avez-vous pu rester 5 mois sans me dire la vérité? Je voyais bien que votre ventre s'arrondissait.
Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon.
Voilà, alors que faire, Nangui? Que faire? Recourir à un exorcisme flash? Non, se montrer compatissant comme Bruno, compréhensif envers une créature, certes pécheresse, en lui faisant comprendre qu'un petit enfant est avant tout le fruit de l'amour d'un papa et d'une maman. Un papa, une
oui,
maman,
oui, ça,
un
ça,
papa.
Ça,
bonne
ça,
émission.
Merci.
La bande originale, Lady.
Pour préciser quand même, on l'a pas suffisamment souligné, qu'Alix Poisson est absolument formidable. Ouais. Déjà, en règle générale, elle l'est. Mais là, dans le...
Ah oui, elle est bouleversante.
Dans le film, le couple est crédible. Ouais, et ce qu'elle vit, la manière dont elle interprète, parce que c'est pas facile à jouer.
Ah non, bien sûr.
On peut pas non plus se dire qu'on a
c'était,
des...
C'est un film qui nous a beaucoup remués, elle et moi. On avait des scènes où quasiment on ne se parlait pas pour être sûr d'être vraiment dans une sorte de spontanéité, de, presque d'intuition, la manière de nous toucher, la manière de nous repousser, ne peut plus savoir quoi se dire, parce que ce couple qui vit ensemble depuis 20 ans, tout d'un coup, ne sait plus comment communiquer, ne sait plus quels sont les mots, parce que moi, au début, j'ai un réflexe un peu, me dis, si tu m'as caché cet enfant, c'est qu'il n'est pas de moi, donc c'est que tu m'as trompé. Donc, il passe par toutes ces phases de culpabilité, de soupçons, et puis ensuite de
colère.
Comme
si on avait vécu avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas.
Et très difficile, donc on était il fallait créer une complicité qui à contrario, voilà, une complicité qui s'étiolait au fur et à mesure du film.
Mais ça fonctionne extrêmement bien.
C'était bouleversant à jouer.
Ce soir sur France 2, donc 21h, l'enfant que je n'attendais pas, Alexis.
Ah oui.
Alexis.
Bonjour.
Ça va.
Alexis, vous avez encore travaillé pendant les vacances?
Oui, j'arrête pas, Nagui, et je m'en veux, parce que à chaque fois, c'est pareil, j'arrive pas à décrocher. Certaines semaines, je travaille autant que vous en deux jours. Ça a pas de sens, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté le monde de l'entreprise. Je faisais de l'ombre aux collègues. Parce que les gens qui bossent trop, c'est comme les gens trop beaux. À un moment donné, ils agacent, tu vois. Moi, c'est tous vrai. Les jours, je me dis, ralentis, Alex. Déjà, physiquement, les gens sont jaloux, n'aggrave pas ton cas. En plus, c'est pas bon de trop travailler. On a beau dire, le travail, c'est la santé, on guérit pas d'une grippe avec un fichier Excel, tu vois. Donc, pendant les vacances, j'ai pas arrêté. Je suis même allé jouer mon spectacle en Belgique, à Casa el Amigo Ernesto et la Mancha de Bélgica y Navarra, plus connu sous le nom de Guillermo Guise. Parce qu'Ernesto, il bosse chez Radio France, mais il vit en Belgique. Alors, je sais pas comment ça se passe pour le niveau fiscal.
Il y a une salle, je crois, là-bas, non?
Comment?
Il y a une salle de spectacle, je crois.
Ouais, il a une salle de spectacle. Donc, je sais pas comment ça se passe pour le niveau fiscal. Être payé par l'argent des contribuables français et vivre en Belgique, c'est pas joli joli. Vous allez me dire, mais c'est normal, il est belge. Et alors, est-ce que sous prétexte qu'on est belge, on doit nécessairement vivre en Belgique? Vous, Nagui, vous prenez pas le premier train pour Alexandrie après l'émission, hein? Alors que vous pourriez faire pareil, vous pourriez dire, j'ai des origines, hein, et profiter de ce que vous gagnez en France pour vivre comme un millionnaire en Égypte. Bon, vous êtes peut-être pas le meilleur exemple pour illustrer mon propos, mais ce que je veux dire, c'est que financièrement, c'est avantageux la Belgique, tu vois. En plus, les Belges, ils ont une relation à l'alcool beaucoup plus décomplexée que chez nous. Donc attention, c'est pas qu'ils picolent, hein, c'est une question de vocabulaire. Je m'explique. Les Belges, au lieu de dire petit déjeuner, ils disent déjeuner. Et les déjeuners, ils appellent ça le dîner. Donc forcément, quand tu dînes à midi, ça décale tout, tu vois. 10h du matin, pour eux, c'est l'équivalent de 17h, tu vois. Donc logiquement, boire une mousse à cette heure-là, ça choque personne, c'est QFD, tu vois. Et puis, ils sont sympas, les Belges. Tu sens que le gène de l'arrogance, il a pas passé la frontière. Hein. Le symbole de la Belgique, c'est une statue de 60 cm de haut avec un micro-pénis. Donc, si c'est pas une preuve d'humilité et d'autodérision, c'est complètement l'inverse de la Tour Eiffel. Tu vois. Franchement, on se moque des Belges en France, mais c'est pas justifié. Par exemple, dire 70, bon, au début, ça nous surprend, mais c'est plus logique que de dire 70. Qu'est-ce qui fait qu'on dise 50, 60 et pas 70, tu vois? Ou alors, faudrait qu'on dise 40-10 pour 50, 30-10 pour 40 ou 10-10 pour 20, tu vois, si on était plus logique.
On peut revenir au spectacle, parce que, est-ce que lui, c'est bien passé le spectacle?
Oui, très bien, c'était super. Avant de jouer, j'étais un peu anxieux, je me disais, est-ce qu'ils vont venir, déjà? Est-ce qu'ils vont tout comprendre? Non, mais le côté lent, les mots articulés, est-ce que ça va pas les perturber par rapport à Guillermo, tu vois, c'est ça que je veux dire.
Oui, ça choque, oui.
Et puis finalement, non, ça s'est très bien passé. À la fin, les gens sont venus me voir en me disant, tu t'appelles comment, toi? À ceux qui s'étaient bien marrés, j'ai dit Alexis Le Rossignol, aux autres j'ai dit Tom Villa, c'est passé quoi. Il y en a un qui m'a dit, ici on aime beaucoup Nagui, c'est le Poulidor de la télé. C'est intéressant cette relation des Belges au vélo, ça fait des métaphores bien choisies. Tu vois. J'ai aussi eu droit à la traditionnelle question, à savoir, et dans la vie il est sympa Nagui? Ça on me le demande tout le temps, tu vois. Question à laquelle je réponds contractuellement, bah oui il est très sympa évidemment, alors que... Je ne connais pas vraiment dans la vie, tu vois.
Mais c'est parce que tu ne me connais pas que tu me trouves sympa.
Exactement. Bizarrement, jamais personne ne me demande si Leïla est sympa. Ça, oui. Sans doute parce que les gens n'ont aucun doute là-dessus en
Exactement.
Réalité. Tu vois. Et à l'inverse, personne ne m'a jamais demandé non plus si Daniel Morin était aussi antipathique dans la vie qu'à l'antenne. Sans doute parce que les gens n'ont pas non plus de doute là-dessus. C'est Bref, clair. La Belgique, c'est super. Pour ceux qui cherchent une destination pour leurs prochaines vacances, si vous hésitez entre la Belgique et l'Italie, bon, ben allez en Italie. Ouais. Mais si vous n'avez pas encore dit idée, la Belgique, c'est une bonne option. Et comme le dit le célèbre dicton belge, si tu viens chez moi, on ira boire une bière, puis on fera copain-copain. Allez, à tantôt et bon dîner, les amis.
La bande originale.
Tu joues quelque part en ce moment, toi ?
Je reprends au point virgule à partir du 18 mai, les samedis à 17h.
Génial.
Il y a un Belge qui s'appelle Origi, qui a mis deux buts hier avec Liverpool.
Magnifique.
Tellement bien joué. Tellement bien joué contre le Barça.
Qui joué hier.
Et ils ont fait exactement. Ouais, Liverpool a battu le Barça de Léo Messi avec un match incroyable. Comme quoi, la remontada, c'est pas toujours le Barça qui le fait.
C'est marrant parce que le Messi, c'est le fleuve qui traverse Liverpool.
C'est vrai en plus. Ouais. C'est vrai.
Ça. C'est pour ça il pouvait pas y avoir deux Messi sur terre.
À propos de Belgique, vous avez une passion pour la Belgique, vous voulez solo.
Ouais, j'ai habité longtemps à Bruxelles pendant quasiment 5 ans. Et je l'ai quitté quand on m'a soupçonné d'y être pour des raisons fiscales. Par rapport à la culture, à l'éducation qui est la mienne, je ne supportais pas l'idée, comme j'avais pu le lire dans 2-3 canards.
Qu'on soupçonne de ça.
Donc je l'ai quitté par amour, pour pas qu'elle pense que j'étais avec elle par intérêt.
L'art de vivre, le style de vie, vous aimiez.
Oui, j'aurais pas rencontré en même temps mon épouse, ma femme adorée, Véronique. Parce que je l'ai rencontrée en France, juste quand j'ai quitté la Belgique. Mais c'est vrai que les 5 ans que j'ai passé là-bas, j'ai adoré vivre en Belgique. Je suis parti presque pour une chanson. La chanson de Dick Hanegaarn qui s'appelle Bruxelles. Puis comment on peut écrire une aussi belle chanson si on n'est pas tombé fou amoureux de cette ville? Et en allant à Bruxelles, j'ai découvert que Bruxelles, c'est peau d'âne. Comme ça, elle paraît comme ça, un peu grise, sous des haillons. Tu dis, bof, oui, c'est une jolie ville, mais il y en a plein d'autres. Et puis quand tu fouilles, c'est la plus belle ville du monde, mais elle est pudique. Elle est pudique, elle se cache. Et quand tu fouilles, tu vois que c'est une ville extraordinaire. Je rends un petit hommage à la Belgique parce que j'aime profondément et les Belges, la Belgique. Chef d'orchestre belge.
Ben voilà. Puisque vous parliez de musique justement et de la chanson Bruxelles de Dick Hanegaarn, on va écouter justement cette bande originale, votre bande originale, Bruno Solo. Vous êtes né en 64, ce qui correspondrait à...
Everybody loves somebody sometimes.
Ah, quand même, c'est pas la classe, Dean Martin, Mr. Cool.
Enfin, c'est l'alcool quand même.
Mais l'alcool quand il est utilisé comme ça, moi je dis du bon. Quoi.
C'est du bon alcool. Ça c'est du bon alcool.
Mais c'est du bon alcool, picolon, si c'est pour donner ça.
C'est vrai qu'il y a une espèce de nonchalance.
Oh, j'adore, c'est un maître. J'adore ça. Et puis elle est belle cette chanson, Everybody Loves Somebody.
Et quand vous l'écoutez, vous voyez où?
Ah, je plane. C'est une drogue cette chanson. J'adore Dean Martin, vraiment.
Et vous avez évoqué que vous aviez quitté Bruxelles pour éviter ce soupçon de fiscalisation un petit peu douteuse.
Ou de défiscalisation.
Ouais, défiscalisation. Ouais. Bah après, ils sont imposés aussi, les Belges. Et je pense que c'est pas si avantageux que ça.
Non, mais parce
que
quand on a une société, parce que j'avais une société, moi, j'avais une société de production, et donc on m'avait soupçonné de l'avoir installé en Belgique. C'était faux d'ailleurs. Je payais. Ça me coûtait même presque de l'argent d'habiter en Belgique.
Et vous dites que vous êtes revenu en France aussi parce que pour des raisons politiques idéologiques liées à la famille, au milieu dans lequel vous avez grandi. Justement, en 64, on va évoquer la famille. Tout à l'heure, Alexis disait que votre père était staffeur, votre mère au foyer. Et au quotidien, on parlait politique, sexualité. Tous les discours étaient autorisés.
Oui, la parole était libre chez nous. On parlait de tout. À partir du moment où on abordait un sujet, j'avais jamais le sentiment avec ma sœur. Nous n'avions jamais le sentiment que on disait on en parlera plus tard. Vous n'êtes pas voilà. On posait des questions. Ils répondaient à hauteur de l'intérêt de notre question. Et puis plus on grandissait, plus nos questions devenaient sophistiquées, complexes, et les réponses étaient en adéquation.
Il n'y avait jamais de c'est pas de ton âge ou on dira plus tard.
Jamais j'ai entendu ça. Jamais.
Vous avez grandi dans le Marais, quartier. À l'époque, plutôt populaire.
Ah, c'est tellement qu'on puisse dire. C'était vraiment pourri. S'il n'était pas rénové, il n'y avait pas Beaubourg, il n'y avait pas les Halles. Et le quartier du Marais, à proprement parler, du côté de la place des Vosges, n'était pas encore restauré. Et c'était vraiment un quartier extrêmement populaire. Et même
de commerce,
un peu
de
mal famé. On était dans le ventre de Paris, comme le décrivait Zola, ou Simenon aussi, qu'on a souvent parlé.
Le quartier qui a commencé à s'embourgeoiser. Donc ça veut dire que la population change. Et donc on se retrouve au lycée avec des fils de riches.
Tout d'un coup, effectivement, il y avait un brassage culturel qui était drôlement intéressant. C'est vrai que c'était chouette parce que tout d'un coup j'ai commencé à fréquenter des gamins qui venaient d'autres univers et ça m'a aidé aussi à me construire. Et puis j'avais la chance que mon papa et ma maman étaient des gens suffisamment curieux du monde qui les entourait pour pas nous avoir éduqués uniquement dans le... on n'était pas dans une sorte de déterminisme social où tu ne peux fréquenter que si que ça, mes parents voyageaient.
Oui, justement, curieux du monde, c'est que 6 mois dans l'année, vous partiez Ouais. En tout cas, c'était l'idée, travailler 6 mois pour pouvoir partir 6 mois.
Alors, non, mon père.
Oui, votre père, ouais.
Nous, non,
oui.
On avait l'école quand même. Mais
lui partait seul.
Mais lui, non, c'est pas ça. Mais c'est qu'il travaillait 6 mois et ensuite, après, il réfléchissait à une autre manière d'envisager le reste de l'année. Pas toujours, mais dans la mesure du possible. En tout cas, on partait tout le temps 2 mois en vacances. On partait de manière des fois un peu précaire, un petit peu. C'était un peu la hussarde. Hein,
mais ça bougeait en tout cas.
Mais ça bougeait. En 75, on était au Portugal parce que mon père nous avait dit à ma mère, ma sœur et moi, il faut aller là-bas. On paye pas d'impôts au Portugal. Parce que c'est la révolution. C'était la révolution des œillets. Parce qu'il sortait de 40 ans de dictature de Salazar. Il me dit, c'est dans ce pays qu'il faut aller parce qu'il y a une euphorie, il y a une joie de vivre qui doit être, auquel il faut assister. Donc, nous sommes partis au Portugal sous les cris d'orfraie de la famille. Mais, vous allez au Portugal, c'est l'émeute là-bas, c'est la révolution. Mais c'était une douce révolution. Une révolution très agréable. Les militaires aidaient les paysans à rentrer les moissons dans les champs. La ville, c'était l'avant Movida au Portugal, bien avant l'Espagne, bien avant que Franco s'était enfoiré claque. Et donc, on était là-bas et c'était un pays qui se libérait d'une dictature catholique, en plus un peu obscurantiste. C'était génial.
En 95, Bruno Solo, vous écoutiez... Coolio Gangsta Paradise avec le sample de Stevie Wonder derrière.
Et 95, c'est votre premier rôle au cinéma, Bruno.
Ouais. Non, c'est pas le premier.
Moi, j'ai Tom et tout seul.
Ah oui, c'est ça. C'est
de
le premier.
Fabien Antoniente.
Tout à fait. Vous avez raison. En fait, j'en avais fait un ou deux, mais des tout petits trucs. Mais mon premier vrai rôle, c'est celui-ci.
Comment ça s'est passé, la rencontre avec le réalisateur, quoi, casting
C'était il m'avait vu à la télévision en train de faire le guignol dans le top 50 à l'époque et le plein de super. Et il a dit, écoute, t'as une âme de comédien. Moi, j'étais déjà acteur, mais j'avais pas la chance de pouvoir exercer mon art, si on peut l'appeler comme ça. Et lui, il m'a donné ma chance. Et après, j'ai commencé à écrire avec lui un film qui s'appelait Grève Party, puis un autre Jet Set. Et puis après, nos chemins se sont séparés. Il est parti sur d'autres films, et puis moi sur mes aventures. Mais en tout cas, j'oublie pas que c'est le premier qui m'a fait confiance et qui m'a donné l'occasion et d'écrire pour le cinéma et de jouer.
Parce que très vite après, c'est La Vérité si je mens, en 97, de Thomas Gilou. Et là, c'est aussi un film tellement grand public que vous êtes vu par beaucoup, beaucoup de gens, téléspectateurs, producteurs, réalisateurs.
Ouais, après, ça m'a permis de bosser assez régulièrement, de faire un petit peu ce que je voulais, puis créer plus tard Caméra Café et tout. Oui, c'est essentiel pour moi.
Faire ce que l'on veut, ça veut dire refuser aussi des projets?
Oui, c'est se donner le luxe de refuser des choses pour parce que on fait aussi ce boulot pour bouffer quoi, pour remplir le frigo, faut pas rêver,
Pour ranger c'est pas
un métier.
Frigo.
Pour ranger, exactement. Pour bien ordonner le frigo. Et c'est vrai que là, grâce à quelques films et grâce à Caméra Café, j'ai pu à un moment choisir. Le problème, c'est que le cinéma que j'avais envie de faire, on me le proposait pas souvent. Ouais. Et que le cinéma qu'on me proposait, j'avais moins envie de le faire. Donc c'est plutôt la télévision et le théâtre maintenant qui me donnent des occasions d'exercer mon métier.
On parle de théâtre. En 2007, vous écoutiez...
Ça démonte, ça va.
Quel bon.
Chris Cornell qui est mort l'année dernière, un ancien chanteur de Soundgarden qui avait été pris pour faire la BO de Casino Royale, le grand retour de James Bond avec Daniel Clair. Elle démonte cette BO là, elle est terrible.
2007 sur scène.
Sur scène, le système Ribadier de Fedo.
Avec Léa Drucker,
avec une très très belle troupe. Et c'était un désir très ancien de monter sur les planches.
Ah mais moi je n'ai fait ce métier au départ que pour faire du théâtre. Je ne rêvais que de faire du théâtre. Et puis j'en ai fait dans des conditions un peu particulières. C'est-à-dire on était plus nombreux sur scène que dans la salle. Dans des pièces qui ne se montaient pas. Des répétitions à n'en plus finir pour une pièce qui finalement ne trouvait pas ses spectateurs ni sa salle. Enfin voilà, c'était un peu... Et puis un jour...
Et vous connaissez bien Fedo.
Et je connais très bien Fedo. C'est un personnage... Il m'a toujours fasciné. Il est moins là.
Il
a un petit coup de mou, Georges. mais c'est vrai qu'il en avait pas quand il était vivant, des coups de mou. J'aime autant vous le dire. Il était tendu comme garçon. À Fedo, non, c'était une sorte de priape, comme ça, très excité, très.
Il aimait honorer tout.
Les femmes, comme à la fin de sa vie, les hommes, il en est mort d'ailleurs. Il est mort d'une syphilis qu'il a contractée avec un jeune mousse qu'il a rencontré.
C'est ce
dans
que
un
tu sous-entendais, Albert, par ça lui a coûté cher, c'est ça?
Voilà,
d'accord,
ça lui a coûté cher. Mais c'était un homme fascinant. C'était un homme fascinant, Fedo. Et la première pièce qu'on propose, c'est effectivement le système Ribadier où je joue un hypnotiseur qui hypnotise sa femme pour pouvoir aller. fréquenter d'autres cocottes, comme on disait au 19e.
Et que vous apporte le théâtre, justement?
J'ai eu peur que vous me posiez une question plus ambiguë. Bah, le théâtre, il m'apporte tout. C'est-à-dire qu'au cinéma, effectivement, ce que j'aime au cinéma et à la télévision, c'est l'aventure, c'est les rencontres, effectivement. Mais vous figez ce que vous faites pour l'éternité. Et puis, c'est quand même le postulat de départ, c'est vous travaillez pour une réalisatrice ou un réalisateur qui fait après les choix de montrer ou de ne pas montrer la séquence, et, évidemment. Et ça, c'est quelque chose que vous devez accepter. Mais voilà, vous n'êtes que l'interprète de l'idée d'un réalisateur. Tandis qu'au théâtre, vous êtes toujours en état de jeu. Vous savez, Edith Schoyer disait, au cinéma, on a joué, au théâtre, on joue. Et c'est ça la différence fondamentale, c'est qu'on est tous les jours en construction de son personnage, qu'il n'y a pas une représentation qui se ressemble, et puis on ressent le public, tant dans les comédies où là le rire est l'émotion la plus directe, mais aussi dans le drame où on sent la salle retenir sa respiration, vibrer avec vous. C'est absolument fascinant. Pour le comédien, c'est l'exercice absolu.
Il y a quand même un metteur en scène.
Oui, un metteur en scène.
Je pense à Jean-Luc Moreau, qu'on a reçu hier et qui vous a salué au passage.
Ouais.
Mais donc, et qui vous a dirigé sur scène. Il y a un metteur en scène. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aussi ne pas être d'accord à ce qu'il dit? Et finalement, on a les clés du camion quand on est sur scène et on fait un peu ce qu'on veut?
Non, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est vrai qu'au cinéma, il faut trouver une émotion très rapidement, etc. Parce qu'on n'a pas le même temps. Au théâtre, effectivement, c'est un vrai travail de collaboration sur le long terme, parce que pendant un mois, nous cherchons ensemble, nous cherchons sur la voix ou sur l'idée que se fait le metteur en scène.
On peut pas être bon tous les soirs non plus.
Ben moi, je crois que si, et je crois que c'est notre devoir.
D'accord.
En tout cas, essayer. Moi, il n'y a pas un soir où j'y vais à reculons et j'ai pas
envie. Non, je parle pas de l'envie. Je dis constat de sortir de scène en disant là.
Oui, ça peut arriver, mais. Mais je sais pas comment vous expliquer. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, donner le meilleur de soi par rapport au texte qui nous est proposé, c'est notre devoir absolu.
J'entends.
Au théâtre.
Mais ce que je veux dire, c'est que devant une caméra, on peut dire, elle est pas bonne.
Ouais, mais tu peux la refaire, mais tu peux la refaire mal aussi. Et puis après, ce que tu vois à l'image ne ressemble pas à ce que tu aurais voulu faire. Mais sauf que tu ne peux plus rattraper le coup. Au théâtre, t'as chaque jour, tu peux changer ta respiration, un geste, etc. Il y a la possibilité de se remettre sans cesse en question. Au cinéma, on fige. Mais c'est merveilleux aussi, c'est un exercice. D'ailleurs, je trouve que l'exercice pour trouver des émotions très profondes au cinéma est un peu plus compliqué, parce qu'il faut le trouver dans l'instant et être sûr que c'est celle-ci, parce qu'on ne pourra plus jamais le changer. Au théâtre, de temps en temps, il y a des soirs où vous dites, tiens, hier, j'étais pas finalement si juste que ça dans cette émotion, je vais en mettre un peu moins. C'est une histoire de curseur qu'on peut régler chaque soir, pas au cinéma.
Reparlons donc de ce film qui passe ce soir sur France 2, L'enfant que je n'attendais pas, à 21h. Sophie Marinopoulos, merci de venir.
Bonjour.
À ce micro, soyez la bienvenue. Vous dirigez le service de la prévention et de promotion de la santé psychique à Nantes, et vous avez signé un livre, c'est surtout celui-là qui a fait écho évidemment dans l'équipe, « Elles accouchent et ne sont pas enceintes » aux éditions Les Liens qui libèrent. C'est la définition du déni de grossesse, « Elles accouchent et ne sont pas enceintes »
Oui, tout à fait. C'est un livre que j'ai coécrit avec le professeur Nizan, qui est gynécologue. On avait très envie de mettre en évidence que la grossesse, la maternité, c'était pas qu'une affaire de corps, c'était aussi une affaire de psychisme. Donc, on l'oublie, je vais dire des évidences, mais on l'oublie. C'est-à-dire qu'on pense que finalement, il suffit d'avoir une approche médicale et tout ira bien. Hein, du côté d'un merveilleux, on a une médecine tellement merveilleuse que, on oublie un petit peu qu'au-dessus de l'utérus, il y a une petite dame, et puis qu'elle a des émotions, elle a des pensées, elle a de l'affectivité, et que parfois, ça va pas si bien que ça.
Alors, justement, ces dames, vous les avez pas oubliées, vous en avez rencontré certaines. J'imagine, comme dans le film où le personnage est joué par Alix Poisson, elles doivent être totalement décontenancées, ne savent pas quoi dire et même avoir du mal à libérer la parole et à se justifier, soit s'expliquer en tout cas.
Oui, alors bon, déjà j'ai eu la chance de pouvoir voir le film, et je voulais vraiment remercier les acteurs, parce que moi ce que je dis, c'est que j'ai commencé à parler du déni de grossesse dans les années 80, donc vous voyez déjà, voilà, un petit peu...
Bientôt 40 ans.
Oui, bientôt 30 ans, voilà.
30.
Ouais,
années 80.
Début des années 80, oui.
Je suis née en 80,
j'étais toute jeune.
Ça va, ok, d'accord.
J'étais toute jeune psy, je démarrais dans un centre de planification et d'éducation familiale, et Simone Veil, le début de la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, et c'est là que j'ai rencontré des femmes qui venaient se pensant en tout début de grossesse et qui au final étaient prêtes à accoucher, et on leur disait, ma petite dame, c'est pas ici, il faut changer de service, c'est en face, vous accouchez. aucune attention à ce qu'elle pouvait vivre, à l'effraction. On n'imagine même pas. Je crois que c'est extrêmement difficile. Ouais. C'est pour ça que je les remercie. C'est l'effraction que ça représente. C'est-à-dire à quel point elles sont détruites. C'est-à-dire que d'une seconde à l'autre, elles deviennent étrangères à elles-mêmes. Elles ne sont
la
plus
phrase est dite, elles-mêmes. La phrase est dite par le personnage d'Alix Poisson dans le film. Je ne suis pas enceinte. J'avais mes règles tous les mois. Qui est quand même le premier signe le premier signe de savoir si on est ou pas enceinte. Le retard de règles, en tout cas, inquiète en se disant, est-ce que je suis enceinte parce que j'ai un retard de règles.
Ça, les fraises.
Oui, les envies de fraises hors saison.
Oui, moi je suis pas très légère, c'est vrai là-dessus, je m'en excuse.
Mais c'est intéressant. Comment le corps peut-il décider et suivre le psychisme de la maman?
Alors dans notre société de la toute puissance, ça nous fait un peu de bien, un peu d'humilité, c'est-à-dire qu'il y a un commandant de bord et le commandant de bord il est là-haut et c'est lui qui va en effet d'abord nous défendre parce que le déni de grossesse c'est une défense. Hein. C'est-à-dire que quand la réalité est trop violente, on a tous ce moyen-là, alors pas forcément que dans le déni de grossesse, mais on a le moyen d'annuler la réalité. Dans la grossesse, c'est terrifiant, puisque pendant ce temps, il y a quand même un bébé qui grandit dans le ventre de la mère. Mais comme la grossesse psychique, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à interpréter ce que le corps vit. Si la femme n'interprète rien, ou si elle interprète à côté pour se protéger, par exemple, elles avaient des pertes de sang, elles l'ont interprétées comme des règles. Ce n'était pas des règles, hein, c'était des pertes qu'elles ont interprétées. Comme...
D'accord.
Exactement la même chose pour les kilos. Il y a des femmes qui prennent quand même un peu de poids, rarement, mais un petit peu, elles vont dire voilà, mais c'est vrai aussi.
J'ai trop mangé.
Ouais, ou je travaillais dans une boulangerie, comme une patiente a pu me dire, ou une autre m'a dit j'ai eu une histoire amoureuse qui a échoué, vous savez bien comment c'est quand
et
on...
Et quand ça ne se voit pas par l'entourage, c'est-à-dire que quoi, l'enfant presque sait qu'il n'est pas le bienvenu et il va se cacher quelque part dans le corps.
Là, je n'irai pas jusqu'à faire parler le bébé en intra-utérin, mais en tous les cas, la manière dont la femme se tient, si vous voulez, c'est-à-dire qu'au niveau de sa musculation, en fait, elle va avoir comme une espèce, comme si elle se mettait une carapace qui fait que le bébé va basculer en dorsale. Donc du coup, parce que vous savez bien, on voit bien les caricatures des femmes, il y en a certaines enceintes de 3 semaines, elles marchent comme des canards avec le ventre en avant, elles sont encore toutes plates. C'est exactement l'inverse. Dans ce cas-là, il y a une telle tension abdominale que le bébé va se mettre en dorsale. Donc il bascule.
Donc il va chercher son confort en disant,
vous n'aurez pas l'image que vous avez l'habitude de voir. Et comme psychiquement, l'impensé, ça fait de l'impensable. Résultat, en effet, la grossesse, et ça, c'est extrêmement bien vécu avec... Alors moi, je suis souvent dans des situations un petit peu plus dramatiques, puisque vous avez évoqué que parfois le bébé décédait. Alors, c'est pas que la mère l'a tué, attention à ce qu'on dit, c'est que les conditions d'accouchement, la femme qui accouche seule se met en danger, ne l'oublions pas, en danger de mort pour elle et en danger de mort pour l'enfant, bien entendu, puisque l'enfant, très souvent, meurt des conditions de sa naissance.
Si le corps est capable de générer ces saignements, quasiment même de façon régulière, pour entretenir l'idée que y a pas de bébé, c'est ce que dit le personnage d'Alix Poisson, c'est je suis bonne pour faire un test de grossesse à chaque fois que j'ai un rapport sexuel, si mon corps ne m'avertit pas ou ne m'avertit plus.
Oui, complètement, bien sûr.
Comment font ces femmes, comment elles le vivent, cet après?
L'après le déni de grossesse, d'abord on sort pas du déni du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on est aussi...
On peut récidiver, on peut...
Alors, ce que vous appelez la récidive, pour nous, dans notre jargon de psy, c'est la répétition. Et d'ailleurs, avec les juges, c'est là où on est en désaccord, parce que eux, ils vont dire, c'est une récidiviste, avec l'air de dire, c'est une meurtrière en série. Nous, on rappelle que quand on règle pas un problème, et c'est l'histoire des humains, c'est pas l'histoire des femmes qui font déni de grossesse, ça se répète, le symptôme revient.
Que dit la justice face à ce genre de...
Écoutez, là je sors d'assises, donc où je vois bien que y a encore du boulot.
C'est à la tête du client.
Tout à l'heure vous évoquiez la juge qui est une femme. C'est vrai qu'on pourrait se dire si c'est des jurés femmes, est-ce que ça sera plus facile?
Pas forcément.
C'est pas si simple parce que les femmes. Moi je suis très attaquée parce qu'on me considère comme défendant.
Complice.
Complice, complètement. Je dis mon premier article, années 90, mon premier bouquin sur le sujet. Donc, j'étais pas loin du début de ma carrière et j'ai un très bel article dans Elle. J'étais ravie, évidemment, vous m'imaginez bien. Et le jour de la sortie, je vois la psy des mères indignes. Ça a été terrifiant pour moi. Mais en même temps, aujourd'hui, je souris parce que je me dis, aujourd'hui, on est ensemble, on en parle, vous m'attaquez pas, ça a l'air supportable, il y a de la stupéfaction. Oui, l'émission est pas fini, mais... Et surtout, ça aide toutes les femmes. Oui, parce que ce qui ne se voit pas, c'est que plus on avance dans notre modernité, moins on supporte l'impuissance, moins on supporte la vulnérabilité. Et c'est les femmes les premières touchées dans leur maternité. Oui. Puisqu'on a fait du merveilleux autour de la maternité. Mmh. Et on ne veut pas entendre qu'on peut être dépressif, qu'on peut avoir voulu un enfant et quand il arrive, bah, finalement, on trouve qu'il ressemble à rien, puis on sait pas trop où on en est. Et ça, ça fait partie du monde de la maternité. Donc, vous voyez, ces femmes nous conduisent sur cette route-là.
Bruno Solo a un peu teasé sur ce que vous alliez nous dire sur l'affaire Courgeot. Est-ce que là, c'est encore quelque chose de différent?
C'est-à-dire que c'est systématiquement des histoires singulières. Donc, l'affaire Courgeot, elle a été tellement médiatisée que c'est compliqué d'en parler dans l'après-coup.
Il y avait beaucoup d'enfants, quand même.
Il y en avait plusieurs, mais, dernièrement, moi, j'étais sur une situation, il y en avait 8. Donc, vous voyez, ça veut rien dire parce que... Alors, c'est terrible de parler comme ça, j'entends, hein, j'essaye de faire attention. Parce que derrière, il y a des histoires dramatiques. Et de toute façon, ces femmes qui, par exemple, dans lesquelles l'enfant décède, le jugement, c'est elles qui le font pour elles. Elles se jugent à vie, c'est fini. Elles sont condamnées de toute façon. Jamais. C'est pas des tueuses en série, donc jamais elles ne se remettront. C'est ça qui est extrêmement touchant. C'est de se dire que la bascule est dramatique et terrifiante. Donc, du coup, moi, j'en appelle à la prévention. C'est-à-dire, j'en appelle à parler.
C'était ma question. Comment éviter que ces drames arrivent? Oui.
Ben, déjà, parler de la grossesse, tant du côté psychique que physique. Par exemple, les déclarations tardives de grossesse. C'est-à-dire qu'une femme qui arrive à la maternité, elle est enceinte de 5 mois, qu'est-ce qu'on fait? On fait une écho, on fait la prise de sang, ça va bien, c'est bon, tout rentre dans l'ordre et fiut, on repart chez soi. Non! Il va manquer 5 mois. C'est une mère prématurée qui va naître mère. Donc non, on la renvoie pas comme ça à la maison. Il faut vraiment être là à ses côtés. Donc, par exemple, moi, j'ai monté mon service dont vous parliez. C'est un lieu que j'ai monté il y a 20 ans. Ça s'appelle les pâtes au beurre, pour vous dire. J'ai troqué mon bureau contre une cuisine. Je suis dans une cuisine avec des collègues. D'accord. C'est gratuit, c'est anonyme, c'est sans rendez-vous. Vous poussez la porte, vous venez quand vous voulez. Et c'est une manière de dire aux pères et aux mères, parce qu'il n'y a pas que les mères et les pères, de leur dire, on est là, vous n'êtes pas tout seul, on est là. Et ça, bon, ben, ça participe aujourd'hui de venir ici, ça participe à la prévention. Le film participe à la prévention, voilà.
Vous l'avez trouvé juste, en tout cas, ce film?
Très. J'étais vraiment admirative parce que c'est des rôles extrêmement difficiles. Non. Vraiment. Il faut aller chercher loin, quand même, en soi. Parce qu'il faut quitter l'irrationnel, il faut accepter d'aller voir à l'intérieur de soi cette part un peu étrange.
C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Sophie Marinopoulos et Israël Nizan, docteur Israël Nizan,
professeur même.
Professeur. Hein. Elles accouchent et ne sont pas enceintes sur le déni de grossesse. Merci d'être venu à ce micro.
Merci à vous.
Merci mille fois. On reste avec des bébés, Tanguy Pastureau, le Royal Baby, est né en Angleterre il y a 2 jours et c'est un mystère lui aussi.
Oui, on ne sait pas où il est né, quel est son prénom, nous a juste donné son poids, comme dans un épisode de Looking Extreme. Il fait 3,3 kg, soit la masse totale des gens qui vont voter Raphaël Glucksmann. Le Royal Baby permet aux Anglais d'oublier le Brexit. Ils ont de la chance. Nous, même pas en rêve, Castaner nous ferait un bébé. La seule fois où il a mis la langue, on lui a dit stop. Alors.
Oh, t'avais pas l'air d'accord, Bruno.
Mais non, pas ça. Mais c'est ce que vient de dire Tanguy est incroyable parce que le premier titre de notre film, c'était 3,3 kg. Et la chaîne a estimé que c'était un peu sec comme titre.
C'est un peu viande.
Oui, mais en même temps, moi je trouve que c'était pas mal aussi comme titre parce qu'il disait de manière un peu radicale comme ça effectivement que pour l'instant elle ne l'avait pas identifié comme un bébé mais comme une masse en elle.
Mais ce soir un film sur France 2 qui s'appelle 3,3 kg et le même jour le Royal Baby qui arrive 3,3 kg.
Là il y aura une confusion, je pouvais pas savoir oui c'est vrai, tu vois, merde. Alors redis-le Tanguy tout à l'heure.
Est-ce qu'on pourrait retenir la phrase, ce qu'a dit Tanguy est formidable?
Oui bien sûr. Et attends, c'est
pas fini. Tous les jours en t'écoutant.
Ça revient après-midi. À tout à l'heure. La bande originale sur France Inter avec Léa Cadoumé, Daniel Morin,
bonjour,
Albert Agnew, Alexis Le Rossignol, Tanguy Pastureau et notre invité Bruno Solo.
Bonjour.
Oh, merci.
L'enfant que je n'attendais pas, ce soir, ce film de Bruno Garcia, à 21h sur France 2, avec Macha Merrill et Alix Poisson. J'ai salué tout à l'heure l'interprétation d'Alix Poisson. Je vais parler, que nous parlions du personnage aussi de Macha Merrill, parce que c'est votre maman. Elle est formidable. Elle a un rôle très important aussi, la maman.
Elle joue, en fait, le rôle, justement, du doute, du contrepoint, de se dire une femme, lorsqu'elle est enceinte, elle le sait. Moi, j'ai été enceinte de toi, et je l'ai senti tout de suite. Ça n'est pas possible. Donc, elle est vraiment...
Donc, elle te ment.
C'est elle qui est dans le déni du déni de grossesse. Et non, elle me ment. Elle me ment. Pourquoi elle me ment?
Non, elle dit dans le film que votre femme vous ment.
Ah oui, que Johanna me ment. Voilà. Et donc, en tout cas, elle a un doute terrible. Elle pense plutôt qu'elle camoufle un enfant qu'elle aurait eu avec un amant, etc. Enfin, et elle ne m'aide pas du tout. Et petit à petit, elle va évidemment, elle ne m'aide pas du tout psychologiquement. Et puis dans ma quête de vérité. Et finalement, elle va elle aussi être dans la position de peut-être pas mal de téléspectateurs ce soir, de se dire, mais oui, comment peut-on ignorer, comme nous l'a expliqué Sophie tout à l'heure. Et puis finalement, elle va être convaincue au fur et à mesure que le film avance de la vérité du déni de grossesse.
On va continuer d'en parler dans cette émission avec vous, Bruno Solo, l'enfant que je n'attendais pas. Mais d'abord, voici Tanguy Pastureau. Oui, Tanguy, on dit souvent que la France est un pays de gens déprimés.
Oui, Pourquoi? C'est vrai, on n'est pas bien, on est morose. C'est notre nation qui a enfanté Isabelle Huppert, Eddy de Pretto, Arlette Chabot. Tout est négatif. Même Bruno Solo comme pseudo, ça fait tristoun. Bruno Duo, même Bruno Plan A4 avec Capote, ça sonnait plus festif. Même Thierry Beccaro en est à se remettre en question. Il quitte Motus parce que, dit-il, il a l'impression de faire les mêmes vannes depuis 30 ans. Il ne réalise pas que c'est la définition même du métier d'humoriste. Comment je fais, moi? Une blague sur Ariel Dombal, une sur Daniel Morin, 2-3 mots un peu littéraires pour flatter l'éditeur d'Inter qui se dit « moi j'ai capté mais les autres n'ont rien dû comprendre », une référence à Benoît Hamon qui à Radio France c'était 99,9% d'intention de vote pour les européennes, ici c'est Robert Mugabe mais en blanc, hein, quand il vient à la matinale les gens s'évanouissent, on doit sortir de Morant sur brancard, et c'est joué, non on est triste, alors que regardez en Inde, il y a plein de pauvres, le nan fromage qu'on commande sur Deliveroo, là-bas il nourrit 40 familles pendant 3 mois, et pourtant quand on dit Inde on pense Bollywood, danse, les mecs s'éclatent, même les lépreux font de la breakdance. À la fin, sur la piste, chacun doit retrouver sa jambe ou sa main gauche dans le tas. Comme chez nous, les slips, quand on va au Moon City de Pigalle. Mais consolation,
attends, je note. Moon
City. Il y a pire que nous, les Anglais. Ces personnes sapées par moins 15 d'un petit haut avec nombril apparent et pour qui la dentition de Freddie Mercury était vécue comme tout à fait classique. Les Anglais sont désespérés. Quand nous, on lançait Roland McDan, à la même époque, ils avaient Joy Division. Là-bas, Gillette commercialise des lames spécial pour les veines du poignet. En plus, le Brexit les plombe parce qu'ils quittent l'Europe. Pour eux, c'est comme une fin d'année Erasmus, mais avec plus de bière. Heureusement, les Anglais ont inventé un concept qui les extirpe de leur réalité sordide. Entre reformation des Spice Girls, les fringues atroces de la reine, cette daltonienne barrée qui ne connaît pas Christina Cordula, les Royal Babies. Alors, le concept est basique. Une tête couronnée se choisit une fiancée, comme chez nous quand on fait la galette. Ils ne bossent pas, donc copulent. Et tous les 18 mois, il y a un Royal Baby qui est lancé sur le marché du neuf. Et là, les Anglais oublient tout. Ils sont hypnotisés. Sauf qu'ils ne regardent pas les yeux de Mesmer, mais l'utérus de Meghan ou de Kate. Hein? Ah bah, c'est aussi sympa, hein? Le regard est miroir de l'âme, gna 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 gna. Mais à Ibiza, en août, quand David Guetta démarre la soirée mousse, je suis désolé, mais on regarde tout, sauf les yeux. Donc, avant-hier, Meghan a donné naissance à un royal baby. Alors ici, en France, ça a moins de retentissement qu'un discours de Nathalie Loiseau. Mais là-bas, c'est l'euphorie. Tout le monde a envie de voir le rôti. Alors qu'il n'est que 7e dans l'ordre d'arrivée sur le trône. C'est-à-dire que pour qu'il soit roi, il faudrait qu'il élimine la moitié de sa famille. J'espère qu'ils ont mis au monde un putain de psychopathe. Parce que si le petit haut fout pas de cyanure dans le jus d'érel de toute la smala, il bossera jamais.
Alors ce qui intrigue surtout les Britanniques, c'est que les traditions ont été bouleversées.
Ah oui, oui, parce que Meghan Markle est américaine. Et ces gens-là sont relax. Hein. La moitié de leur vie, ils la passent en pantalon de survêt à bouffer des ailes de poulet. Hein. Toute la journée, il n'y a plus un oiseau là-bas qui a des ailes. Hein. Aux USA, un t-shirt chevignon, on voit dessus un canard dans un plat en sauce. Même dans Game of Thrones, à un moment, la mère des dragons est en train de bouffer l'aile droite de l'un des deux, hein, qu'elle accompagne avec un petit café Starbucks.
Oui, hein,
vous avez vu? Oui. C'est tellement fait, mal fait, ces séries.
Ils ont bien gobelé.
Voilà, s'ils avaient pris en consultant de la script de Demain nous appartient sur TF1, ça aurait été mieux gaulé. Hein, mais parce qu'ils ont marqué le nom de leur blé dans les trimences sur une colline, ils se prêtent pour des kings, hein, ces kékés. Bref, Meghan, la royauté, elle la prend, elle la retourne. Exemple en théorie, dans la minute de vin qui suit l'accouchement, elle était censée présenter le bébé au peuple. Ben non, c'est Harry tout seul qui est apparu. Il a dit « Le petit va bien ». Ben montre-le alors, ça va, hein, on nous a déjà fait le coup, avec Bouteflika. Hein, oui, il est en forme, il fait le marathon d'Alger samedi. Pendant ce temps-là, l'autre avalait ses dents. Non mais du bébé, on ne sait rien. Juste que c'est un garçon, Harry l'a dit. Alors il a été accusé par les tweetos d'accorder trop d'importance au genre. Donc là, il va faire une conférence de presse pour ajouter qu'il aurait tout aussi bien pu être une fille. Alors, il n'a pas de prénom, hein, on l'appelle machin. On sait à peine où Meghan a accouché. La presse dit que ça s'est fait à la clinique de Portland, en plein cœur de Londres. 17 000 euros l'accouchement. À ce prix-là, le petit sort déjà habillé en Vuitton avec une bouteille de champagne, des petits fours et tout l'orchestre derrière pour l'ambiance. Tout est un mystère. On raconte que la famille pourrait déménager en Afrique. Hein, quitter l'Angleterre pour l'Afrique. C'est pile l'antithèse de la vie des migrants. Ils sont déjantés. Alors hier, Stéphane Bern, le spécialiste des rois, hein, autant vous le mettez en commentaire sur le ski à bosse, il est nul. Autant un bébé avec un sceptre, il tient 7h30. L'a dit, le Royal Baby pourrait rapporter 1 milliard de livres à l'Angleterre en produits dérivés et ça compenserait les pertes du Brexit. Ils sont forts. Hein. Nous, si Philippot fait un putsch et qu'on quitte l'Europe, on va mettre quoi sur les mugs? Les petits enfants de Brigitte qui grimpent sur Édouard Philippe parce que mamie aurait eu la flemme de les emmener à la Tour Eiffel, hein? On n'a pas de bébés royaux, on ne sait faire que des gueux. Alors je vais vous dire, c'est pas étonnant qu'on déprime.
Merci David
Pressiot. Et Tanguy sera le 18 mai au théâtre Le Colbert à Toulon.
Alors, donc ce soir, L'enfant que je n'attendais pas, film réalisé par Bruno Garcia. Tu voulais dire,
oui.
Leïla, à propos de ce film sur le déni.
Je voulais dire que non seulement il y a ce soupçon permanent sur Alix Poisson, son personnage, à savoir qu'elle savait, mais qu'elle n'a pas voulu le dire. Et il y a aussi un autre soupçon sur le mari, se dire que c'est impossible, qu'il a voulu fermer les yeux, qu'il
il
n'a pas
complice,
cherché à voir. Ouais. Donc c'est aussi l'homme qui est dans cette histoire qui est affecté.
Oui, oui, absolument. Il est lui aussi pris dans ce maelstrom. Il se demande. Déjà, il s'en veut tout seul, puisque on le disait au début de l'émission, mais il est kinésithérapeute. Ouais. Donc, a priori, il a une connaissance de l'anatomie et tout. Il doit savoir ce que c'est qu'un corps.
Et même au-delà de ça, Bruno, ouais. il dit à son épouse, si je m'étais réveillé 5 minutes
oui.
avant.
Alors ça, c'est quelque chose qu'il lui avoue. Effectivement, si je m'étais réveillé 5 minutes avant, j'aurais pu t'aider. On aurait pu éviter le fait que l'enfant, tu sois dans tel état de sidération. Ouais. J'aurais pu t'aider à ne pas être dans cet état. Et l'enfant n'aurait pas été abandonné. On serait pas là. Le drame, le traumatisme aurait existé. Mais la justice n'en se serait pas mêlée de la même manière. Donc, effectivement, il est vraiment, lui aussi, perdu dans un truc vertigineux. Et il doute de lui-même. Il doute de son amour. Il doute de sa capacité à aimer. Parce qu'il a pas su voir la femme qu'il aimait. Il a pas su sentir sa détresse. Et il s'en veut aussi d'être passé par la phase de jalousie un peu morbide et presque misogyne, un petit peu de une femme évidemment ne peut pas ne peut pas avoir un enfant sans le savoir.
Elle est vraiment isolée, c'est pour ça que c'est important de dire qu'elle est vraiment elle victime de ce déni de grossesse,
c'est
parce que non seulement
ils sont très violents.
Voilà, non et puis son amour. Il faut dire aussi qu'elle est enfermée, elle est en prison,
elle est jugée
par ses compagnons de cellule et dans la cour, donc elle est rejetée.
Bien sûr, par les mamans à l'école qui veulent pas qu'on s'approche de sa petite fille quand elle vient la voir.
Rien n'est fait pour l'aider.
Et le seul soutien qu'elle pourrait avoir, c'est moi. Et à un moment, je m'éloigne d'elle pour mieux ensuite la retrouver. Mais c'est vrai que c'est une phase difficile.
Et puis il y a aussi un personnage dont on n'a pas encore parlé. C'est la première fille, le premier enfant aussi, qui d'un coup va voir sa maman partir. Elle joue extraordinairement bien.
Elle est extraordinaire, cette gamine. Elle était dans une sorte d'intuition de chaque scène. Avec une force de proposition dingue, et puis avec la désinvolture en même temps inhérente à l'enfance, de temps en temps, elle avait pas tout à fait conscience, et c'était bien parce que elle enlevait un peu de gravité dans certaines séquences, parce que comme un enfant, elle posait des questions très candides, mais pourquoi j'ai un petit frère, pourquoi vous me l'avez pas dit, vous me mentez, elle est là-dedans, et puis finalement, elle est la première à accepter l'idée qu'elle va avoir un petit frère, et tout ça n'est pas si grave, et elle nous posait des questions d'ailleurs, la gamine, elle nous posait des questions sur le scénario,
sur le tournage,
oui, sur le tournage et on lui répondait à la hauteur de ses questions. Encore une fois, les enfants, ils se compliquent pas la vie. Il suffit qu'on leur donne une explication qui correspond à leur rationalité du moment.
Et parce qu'ils ne jugent pas.
Ils ne jugent pas. Voilà, ils constatent et puis après ils font avec. Et puis de temps en temps, on lui dit mais c'est quand même bizarre. En général, quand une maman est enceinte, elle le sait et tout. Donc on lui expliquait. Et hop, elle l'acceptait. Ah bon, d'accord. Elle était formidable, cette enfant. Vraiment, vraiment formidable.
Et être papa.
Elle
dans,
pouvait
dans,
peste aussi de temps en temps comme peuvent comme les tous enfants. Les enfants. Et c'est ça qui est formidable aussi chez
ça, et c'est de ça dont je voulais parler voilà. Justement. Non mais être papa dans la vie, le jouer au cinéma dans un cas aussi particulier, on va chercher des ressorts dans pas dans le vécu, mais dans quel moment de particulier.
Dans les moments, où on a peur, dans les moments où on ne sait plus qui on est. Moi, je me souviens quand j'ai eu moi avec mon fils, mais quand j'ai eu ma petite fille, j'avais très peur parce qu'elle pleurait beaucoup quand elle était enfant. Elle avait des nuits un peu difficiles et je m'inquiétais de tout, j'imaginais toujours le pire, donc c'est pas très difficile d'aller chercher, moi qui suis un être hypersensible, voilà, fleur de peau, c'est pas très difficile d'aller chercher effectivement cette émotion, cette inquiétude, cette fébrilité. Il suffit juste de faire appel, de me rappeler le nombre de fois où dans la nuit je me suis réveillé en étant persuadé que si ma fille criait, que c'est que son heure était arrivée, quoi. J'en arrivais je pouvais appeler les urgences parce qu'elle faisait ses dents quand même. Ma femme ne se réveillait même pas. Véronique me dit, écoute, va voir les urgences si tu veux. Et je partais avec ma fille voir les urgences. Elle me disait, elle a faim, elle a sommeil, monsieur, rentrez chez vous. Faut et là, Véronique, elle rentrait, elle me dit, ça va, ça s'est bien passé. Combien de fois elle s'est foutue de ma gueule. Mais voilà, donc j'ai cherché dans ces moments-là, voilà, en enlevant la partie qui vous fait rigoler. Et j'ai gardé que la partie dramatique parce que tout le monde rigolait autour de moi, sauf moi. Voilà.
Ce soir, à 21h, sur France 2, l'enfant que je n'attendais pas, Alexis Poisson. Poisson, c'est un mélange entre Alexis Le Rossignol et Alexis. Ouais. Alex Poisson.
C'est formidable.
Ouais. Ma mère c'est ne difficile de s'y retrouver. Le Rossignol et le Poisson, c'est pas une fable de La Fontaine, ça.
Si. Ma Chaméril et Bruno Solo, entre autres, ce soir dans ce film qui.
De Bruno Garcia qui a fait un travail remarquable parce qu'il a beaucoup travaillé sur l'adaptation d'Éric et de Caroline Dupoté, qui sont les deux auteurs, qui sont frères et sœurs. C'est une fratrie.
Ah ouais, je crois qu'ils étaient mari et femme.
Non, ils sont frères et sœurs, et ils ont entendu parler de cette histoire, ils sont extrêmement complices, et je trouve ça intéressant justement que ça soit écrit par une fratrie comme ça aussi proche, et parce qu'ils sont très proches dans la vie, c'est ça que je veux dire, et j'ai trouvé ça assez troublant qu'ils écrivent à quatre mains, comme on dit, en fait on n'écrit pas à quatre mains, on écrit à deux mains, et voilà, et Bruno s'est beaucoup impliqué dans l'écriture et dans la réalisation, et c'est pour ça qu'il a filmé avec la juste distance ce film.
Troublant tout autant, mais lui il écrit avec les pieds, voici.
Ça c'est une attaque basse que tu vas payer très fort.
Vous me dégoûtez.
Mais il y en a marre.
Vous me plaît, Daniel.
Il y en a marre de tourner autour du pot. Il y en a marre de pas dire les choses. Il y en a marre de prendre des pincettes. On est en 2019. Merde, faut les dire les choses. Faut être cash pour les Européennes. Regardez la candidate de La République en Marche. Nathalie Loiseau, elle dit rien, et si elle dit quelque chose, c'est du bout des lèvres. Du coup, personne ne l'écoute. On dit qu'elle n'a pas de charisme, ça énerve Macron, qui lui a envoyé Édouard Philippe pour la booster. Heureusement que dans ce pays, il y a des gens qui en ont dans le froc et qui disent les choses. Tenez hier Pascal Pro, dans son émission « L'heure des pros » sur CNews. Il recevait entre autres Claire Nouvian, militante écolo, femme engagée politiquement pour le respect de la biodiversité. Eh ben Pascal, il n'est pas d'accord avec elle et tous ceux qui nous alertent quant au réchauffement climatique. Eh ben il le dit, voilà, il dit qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Et quand Claire Nouvian, elle dit qu'elle n'est pas d'accord, ben il se démonte pas Pascal, il lui dit juste qu'elle est folle, qu'elle est hystérique. Allez, dans ta face l'écolo, t'es pas d'accord, eh ben t'as tort. Mais il a raison Pascal, faut dire les trucs. Le dialogue, c'est une perte de temps. Faut dire les choses, faut être cash. Tiens, un autre qui en a dans le falzar. Marcel Campion, le roi du Grand 8. Et alors? Marcel, il en peut plus d'Anne Hidalgo. Du coup, il se présente à la mairie de Paris. Ben, quand il fait son petit meeting, la semaine dernière, il dit quoi pour décrire Anne Hidalgo? Est-ce qu'il dit de façon molle et consensuelle, Anne Hidalgo, c'est pas une bonne maire de Paris? Non! Il est cash, Marcel, il dit les choses. Il a dit Anne Hidalgo, c'est carrément une salope. Allez, dans ta face, la socialiste. Bim, je suis cash chez moi, Marcel, faut pas me faire chier. Et quand il a parlé de Yann Brossa, un des adjoints d'Anne Hidalgo, vous croyez qu'il a pris plus de distance? Non, il a dit, c'est un escroc, c'est un petit merdeux. Allez, dans ta face, l'adjoint. Bim. Alors bien sûr, il y avait la deuxième couche à Marcel, sinon c'est pas drôle. Il a rajouté, en plus, on peut pas dire qu'il est de la jaquette, puisqu'on a plus le droit de le dire. Jaquette, allez, dans ta face, l'adjoint. Mais c'est bien. C'est direct, c'est cash, on sait où on en est. Pascal Pro, Marcel Campion, c'est des gars comme ça qu'il faut aujourd'hui, ils disent les choses. Pensez à toutes les fois où vous avez des envies de balancer quelque chose, mais vous vous dites, je peux pas, ça va créer des tensions, je vais pas le dire, je vais le faire comprendre, mais je vais pas le dire. Erreur ! Nagui, Quoi? Nagui. Combien de fois est-ce que vous m'avez dit après une émission, ouais, alors lui, plus jamais comme invité. Hein. Quand il parle, on comprend rien et son film, quelle merde. Mais vous le dites pas, l'invité. Du coup, il revient. Vous vous trouvez dans l'embarras. Gagnez du temps, Nagui. Soyez cash. Soyez champion. Soyez pro. La prochaine
soyez
fois.
Soyez pro, c'est ça.
Dites les choses. Okay. Et c'est la fin de la BO. Heureusement qu'il y avait des chroniques et la musique, hein, parce que l'invité nous a bien fait chier aujourd'hui avec son film de merde. Plus jamais ça. Mais bonne journée quand même, Bruno Solo. Hein. Dans ta face, le showbiz. Et voilà. Et on peut aller plus loin, mon Nagui. Au resto, si tu dis rien quand t'aimes pas, bon, on va te resservir de la mauvaise bouffe. Faut dire les choses. Faut être avec la Marcel attitude quand tu reçois l'addition. Soit direct, soit cash. Quoi? 900 boules pour ta tarte aux anchois pas frais, un verre de vin qui pique et un café qui pue. T'as vu la Vierge ou quoi? Jamais je te paye, espèce d'escroc. La prochaine fois, je vais à la cantoche de Radio France. Allez, dans ta face, Jean-François Piège. Alors après, il y a une autre solution, les amis. Il y a une autre solution, hein, que cela jouait Pascal Praud, Marcel Campion. C'est tout simplement d'être poli et respectueux. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde.
Merci, Daniel. Bravo, Daniel. France Inter, la bande originale. Tout est vrai,
tout est vrai.
Ah oui, parce que j'ai découvert, moi. J'ai découvert.
Ah là là, revois cette séquence,
tu vois. Ou pas. Tu sais quoi, parce que finalement, si on la revoit et si on en parle, ça fait du clic et le mec dit j'ai fait du buzz et donc il va continuer. Donc, bref. Ce soir, par contre, ce qu'il faut voir, c'est cet enfant que je n'attendais pas sur France 2 à 21h avec vous, Bruno Solo. Vous serez également le 21 mai prochain sur France 3 dans Étoiles filantes. C'est un épisode de la série Crime parfait.
Oui, je joue un cuisinier étoilé qui est totalement cupide, qui assassine sa femme dès la première minute.
Ah ouais, d'accord.
Voilà, et vous comprendrez pourquoi. Et les raisons sont absolument scandaleuses.
J'ai adoré jouer ça.
En plus, je me suis vengé parce que comme je suis très mauvais cuisinier, voilà, je suis carrément un cuisinier assassin. Et de sa cuisine et de ceux qui ne l'aiment pas.
Avec Isabelle Otero, c'est ça?
Avec Isabelle Otero, oui.
Dans cette série Crime Parfait.
Est-ce que j'ai le temps juste de faire un tout petit message que j'ai écrit parce que je voulais pas me planter?
Je vous en prie.
Il y a une manifestation auquel je tiens beaucoup, dont je suis le parrain de cœur, qui va avoir lieu bientôt, qui est sur une semaine. C'est les apprentis scènes. C'est un événement unique en France. C'est des apprentis, et Dieu sait si on en manque dans ce pays, parce que c'est pas une formation auquel on pense dans les lycées, dans les collèges. On dit rarement aux enfants qu'il y a aussi des traîtres, et Dieu sait si on a besoin
pourtant,
du BTP, on a besoin de batterie, on a besoin de maçon, on a besoin
les compagnons, on apprend par la transmission. Et
c'est une orientation qui n'est pas nécessairement proposée, et on manque d'apprentis. On le voit aujourd'hui, il manque, voilà, c'est pas valorisé. Et puis il y a des apprentis aussi dans plein d'autres métiers, hein. Il y a même des apprentis dans des métiers du secteur tertiaire. Bref, les apprentis
et même dans
de
la
tout niveau.
Et dans la cuisine, que tu ne sais pas faire.
Apprentis de tout niveau et tout métier confondu sur les planches du 13 au 17 mai à 20h30. C'est 350 apprentis, 32 metteurs en scène professionnels qui les font jouer. Et moi, j'ai assisté plusieurs fois à ces scènes. C'est extraordinaire. Il y a vraiment des gens qui se découvrent le métier de la comédie, mais qui font parler de leur métier au travers de la comédie et du théâtre. Ça a lieu donc du 13 au 17 mai à Paris, voilà, à Paris au théâtre des variétés. Voilà, du 13 au 17 mai au théâtre des variétés. Apprentiscène.fr, vous aurez tous les renseignements à
d'accord.
Paris.
D'accord. OK. Ce que
des apprentis qui viennent jouer des scènes,
mais des apprentis de tout métier comédiens.
Des apprentis de tout métier, c'est pas des comédiens justement, et qui sont mis en scène par des professionnels et c'est vraiment un spectacle incroyable et on y découvre des gens qui sont boulangers certes ou plâtriers mais qui pourraient faire des comédiens formidables.
Revenons à
apprentiscène.fr, voilà, pour tous les
renseignements. On peut mettre les infos sur le site de l'émission.
Merci Daniel.
Revenons sur votre carrière et sur vos envies. Est-ce qu'elles sont théâtrales, cinématographiques? Est-ce que vous écrivez parce que tout à l'heure tu parlais Leïla de Jet Set, vous aviez commis le scénario.
Oui, j'avais co-écrit le scénario avec Emmanuel Debrant et Fabien Otteniente il y a quelques années cela. Ouais.
Et donc écrire un film à nouveau seul ou bien accompagné comme vous voudrez.
Bon, je le fais parce que moi, je suis directeur d'écriture sur beaucoup de projets qu'on développe avec ma société de production. Donc je m'occupe un peu d'initier les projets, de rassembler les auteurs. Bah non, mais là c'est un peu secret parce que je suis en train de lancer deux projets à la fois et pour deux chaînes différentes en espérant, vous savez, on en lance une dizaine, on lance des hameçons un peu partout en espérant qu'il y ait une ligne qui prenne et voilà, c'est un peu le métier de directeur artistique et de producteur artistique. Et mais là par exemple récemment, j'ai produit un film pour Arte qui s'appelait Tout contre elle avec Patrick Timsit, Astrid Wetnal et Sophie Quinton, qui a très très bien marché d'ailleurs sur Arte, et qui était écrit par l'immense Gilles Torrent, qui est quand même l'auteur principal de Téchiné depuis quelques années, et donc d'André Téchiné. Et donc voilà, j'aime bien initier des projets avec Garance, qui est mon associé, et j'ai une petite boîte qui s'appelle Solo Duo. Tout à l'heure, on me reprochait de m'appeler Solonanisme. Et ben voilà, je suis effectivement, je suis en duo.
Mais Solo, c'était pour les agents très spéciaux, Napoléon Solo, non ?
Napoléon Solo, ouais, ouais, bien sûr, hein, c'était ça. Non, mais ça vient d'autre chose. Mais bon, je ne veux pas refaire l'histoire de mon nom. Mais
vous regrettez un peu ?
Non, pas du tout. Non, j'aurais regretté de continuer de garder mon nom parce qu'il était. C'est quand je travaillais avec Bollock. Mais bon, je ne vais pas refaire cette histoire. Je l'ai raconté quelques fois.
Ouais. Vas-y, finis.
Non, mais parce que j'étais avec Bollock et quand Bollock, pour le coup, c'est son vrai nom, ça claque comme nom. Mmh, et quand je faisais un duo avec lui, il me disait Bollock et Bruno, Yvan et Bruno, Bollock et Lassalle, qui est donc mon vrai nom. Il me dit, il faut que tu trouves un nom. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Solo parce que il correspondait à une nature profonde chez moi et en plus à mon héros qui était Han Solo. Ouais. Ouais. Parce que j'ai toujours préféré Han Solo que Luke Skywalker, même si sur le coup, Luke Skywalker est plus costaud.
Et Lassalle pour un comédien. Théâtre, cinéma,
mais justement, c'était
aussi
déjà pris. Vous me connaissez. Attends, je suis trop orgueilleux pour partager mon nom. Voilà.
Et donc, la prochaine fois qu'on voit au cinéma, cette fois-ci, c'est quand ?
Ce sera dans un film de Gabriel Le Bomain qui va raconter les trois semaines où Charles de Gaulle a pris la décision de partir à Londres. Donc, Charles de Gaulle sera joué par Lambert Wilson. Yvonne de Gaulle, qui a été très importante dans les décisions qu'a prises. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et Yvonne de Gaulle, qui a longtemps été considérée comme Tata Yvonne, etc. On se rend compte à quel point elle était importante dans les décisions même politiques et stratégiques de Charles de Gaulle. Et le film s'appelle Libre et Yvonne de Gaulle est jouée par Isabelle Carré. Je jouerai Georges Mandel dans ce film.
Très bien. Ce soir donc 21h, je le rappelle, sur France 2, cet enfant que je n'attendais pas. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Déjà pour Monsieur Cadour qui nous écoute, je le sais. Ouais, Monsieur Cadour qui a découvert ce matin, suite aux anecdotes relatives aux mœurs de Fedot, une autre facette de Madame, un truc plus libre. Pour Leïla, les MST, c'est pas grave, ça va même plus loin.
C'est de l'amour.
Ouais, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Désolé maintenant pour le fisc français qui comptait enquêter sur Bruno Solo. Et ouais, il l'a dit, mais non, c'est pas pour les impôts qu'il a vécu en Belgique. En plus, il a quitté le pays. Aujourd'hui, il partage son temps tranquillement entre la Suisse, Monaco, le Panama, le Luxembourg. Voilà, c'est tout. C'est juste un grand voyageur, Bruno. Et désolé encore pour Bruno Solo. Alors, j'ai vérifié. C'est vrai, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. En revanche, Nagui à la pause vous a trouvé. Vous a trouvé sur YouPorn et c'est assez charmant, c'est vrai.
Merci Bruno Solo. Merci. 10 000 fois.
Bravo Bruno.
Bravo et merci. Rendez-vous ce soir 21h sur France 2 et d'autres épisodes, d'autres aubergines reviendront bien sûr dans cette émission. On va pas se priver. Demain c'est Mélanie Douté qui sera notre invitée. Oui.
Bonne nouvelle.
Coiffe-toi.